Bonne année le chat. Oh là là, incroyable. Eh, bonne année, hein. Bonne année tout le monde, bienvenue, bonjour, installez-vous confortablement. C'est parti. J'avais pas prévu de stream cette semaine, j'étais en mode vas-y, tu sais quoi, vacances et tout. Puis finalement, fuck it. Merci Laure pour ton resub, merci beaucoup. La santé surtout. Ah ouais, la santé, oubliez pas la santé, hein. Merci Tidrao. Oubliez pas la santé, c'est important, n'est-ce pas, Nicolas Sarkozy, MDR, la blague, elle a déjà été faite. On adore l'humour ici. Et... comment ça va? Merci Caracol 2. Comment ça va? Comment c'était les vacances? Merci Julie. Des bijoux et des bisous. Merci Shlogan. Après, on peut faire du Flight Simulator aussi. Non, mais on pourrait. Il faut que je m'y mette, c'est juste ça. Merci Manitou, ça fait une semaine que je me dis qu'il faut que je m'y mette. Le truc, c'est que Flight Simulator, en fait... La dernière fois que j'ai essayé de faire du Flight Simulator sur mon setup Flight Simulator, je me suis rendu compte que tout mon matos était déréglé. Genre vraiment déréglé. Et ça veut dire qu'avant de faire du Flight Simulator, il faut que je me coltine une demi-journée au moins de sessions de réglage extrêmement relou. Et ça me démotive d'une force. Merci Isoréa. Ça me démotive d'une force faramineuse. Donc je vais pas faire ça. Faudrait que je le fasse, mais ça me saoule. En plus, j'ai pas la motivation. Je regarde pas de vidéos de Flight Simulator sur YouTube, donc je suis pas dedans. Faut que je m'y remette. Sinon, on fait la sieste tous ensemble. Oui, on peut faire ça, oui. Merci, bonjour. Jusqu'à ces dernières 48 heures où je cumule les bonnes nouvelles, Trump et intoxication alimentaire, les deux vont de pair. Ah merde, oh, c'est dur ça. Intoxication alimentaire, c'est pas marrant. Trump non plus, c'est pas marrant, tu me diras. Non, mais t'as raison. Merci la poule cave. Qu'est-ce que vous avez fait de vos vacances? Merci Matchamalis. Qu'est-ce que vous avez fait de vos vacances? Comment c'était les vacances? Moi j'étais en famille. Alors j'ai fêté Noël avec ma famille et il y avait des marmots, il y avait des petits marmots, des petits enfants. J'adore les enfants. Le truc c'est que les enfants ça vient avec des microbes. Je sais pas ce qu'ils m'ont refilé, mais putain je tousse depuis 15 jours. Merci Ichidev. J'ai la gorge en vrac, je n'arrête pas de tousser, c'est insupportable. Merci HVI Vines. Donc j'arrête pas de tousser, voilà. Donc j'ai une pensée émue pour tous les enseignants de France. Merci Ngaya, les enseignants, les profs, voilà. Je pense à vous. Je pense solidarité totale. Je sais pas comment vous faites. C'est fou la quantité de miasme qu'il y a dans un gamin. Vous dites quand même vous. Ils se le refilent entre eux, ils le filent aux adultes et tout. Non, c'est terrifiant. J'ai bossé, moi, c'est pas fun. Ah, merde. Donc voilà. Donc j'ai fêté Noël avec des marmots et j'arrive pas à m'en remettre. Mais c'était très chouette. J'étais très content de les voir. Ils sont formidables. On a regardé Harry Potter. Parce qu'en ce moment, ils sont à fond dedans. Mais ça faisait 1000 ans que j'avais pas vu Harry Potter. C'est pas mal. Enfin, regarde par la fenêtre, il neige. Ouais, je sais, il neige. Alors, Paris, la France est recouverte par une poudre blanche. Je crois que c'est un clin d'œil à l'actualité, n'est-ce pas? C'est un signal qui est envoyé à Trump. t'as vu chez nous aussi, hein? Nous envoie pas tes hélicos, ça fait chier, on n'a pas envie. Voilà, c'était juste pour la blague, on avait envie de rigoler. On a rigolé, voilà. Trump va enlever Macron, mais il va se tromper, ils vont enlever Mélenchon, tu vas voir. Bon, à l'air con, on fait, mais c'est pas le bon. Enfin, c'est pas encore le bon, il sera élu dans un an et demi. Mais non, oh, non, ils sont trompés. Oh, et merde. Il fait beau ici en Angleterre, mais presque -10, on se les gèle. C'est dur ça. C'est dur, ça. Qu'est-ce que vous avez eu à Noël? Qu'est-ce qui vous a apporté le Père Noël? T'as eu quoi? T'as eu quoi? T'as eu quoi? Je vous rappelle que c'est la seule discussion autorisée dans les cours de récréation en janvier. T'as eu quoi, Noël? T'as eu quoi? T'as eu quoi? T'as eu quoi? Et toi, t'as eu quoi? J'ai eu des Lego, une montre, un lave-linge, une Yamaha HS5. C'est quoi? Des Yamaha HS5? C'est quoi? C'est de la musique ou c'est de la moto? Des BD, de l'argent, des garde-boue, une BD, un jeu de plateau, le livre de Sarko. des livres, rien du tout. Le jeu de société Antifa, une orange, Splendor Pokémon, oh, les vinyles de Clair-Obscur, oh, un président sud-américain, un président sud-américain, d'accord. Chronique de Saint-Roustan, le Lego du Balrog, oh, stylé. Le livre de Loumir, oh, trop bien, le livre de Loumir. Des enceintes pour la musique, un lave-vaisselle, des chaussettes. Cours de ski, je me suis cassé le pied. Ah! Oh, l'année 2026 de merde. Enfin, ça commence mal en tout cas. Mais ça ne peut aller que mieux. Un test de grossesse positif. Ah! Eh bah, félicitations pour le sexe. Les moustaches de Maduro. Des cigarettes en chocolat. Ça se vend encore, ça? Cigarettes en chocolat? Du merch du Conseil constitutionnel. Tu mens, tu mens. Tu mens comme tu respires. Une bouteille d'huile, du papier toilette, deux éponges et des raviolis. Non, tu t'es trompé. Ça, c'était ta liste de courses chez Franprix. Des sauces piquantes. Un manteau pour éviter le grand froid. Oh. Moi, j'ai eu une éponge. Moi, j'ai eu une éponge, moi. Merci, Thibaut. C'est ma sœur qui m'a offert ça, elle a offert ça à toute la famille. Une éponge. Alors elle m'a dit, attends, c'est une éponge trop bien. C'est une éponge écolo, t'as pas besoin de liquide vaisselle avec cette éponge. Je sais pas comment ça marche du coup, mais ça dégraisse sans liquide vaisselle. Vous connaissez ça? Il y en a qui ont. C'est vrai cette légende? Le cadeau de trentenaire. Ah ouais, le cadeau de trentenaire, ouais, complètement, ouais. J'ai infection alimentaire incoming. C'est pas un scam. Ben j'en sais rien, apparemment c'est écolo. Apparemment c'est écolo. Ça passe au lave-linge. Moi on m'a dit le lave-vaisselle. Ben en tout cas, t'as pas besoin de mettre du liquide dessus. Et ensuite tu la balances au lave-linge ou au lave-vaisselle d'ailleurs, je sais pas. Merci Nog2. Merci Nog2. Il faut quand même du liquide. Ah bon? Il faut quand même du liquide. T'as pas testé encore? Non, je vais pas tester encore. Faut dire que je fais pas la vaisselle, donc j'ai jamais l'occasion de m'en servir. Il faut du liquide. D'accord, il faut du liquide. Ou alors faut frotter pendant 10 ans. J'étais bien parti pour frotter pendant 10 ans. C'est juste une éponge réutilisable, mais il faut du liquide. D'accord. Elle m'a raconté n'importe quoi, ma sœur. Elle m'a raconté n'importe quoi. Elle m'a dit, t'as pas besoin de liquide. Bon. Et continuer à dépenser du liquide alors. Non, mais en plus, j'ai jamais l'occasion de m'en servir, moi, des éponges. Pas la vaisselle, moi. Faire la vaisselle. J'en profite. C'est une info de chat. Je sais pas. Je vais redemander. Je vais redemander. Je vais redemander. Je vais redemander aux autorités. Elle va me dire. J'ai eu un pull aussi. Celui-là. J'ai eu ce pull-là à Noël. Merci Mamie pour ton abonnement. Merci beaucoup. J'ai eu ce pull-là. J'ai eu des chaussons. J'ai eu des nouveaux chaussons. Oh. Oh. Merci Père Noël pour les chaussons. Ils sont trop cool. Ils sont beaux. Ah ouais, non, ils sont très très bien. Ils sont très très bien. Ils marchent bien en plus. Je suis très content. Je vais pouvoir jeter les anciens et ils commençaient à être dégueulasses. Mmh. J'en ai une armoire. Est-ce que t'as offert des cadeaux? Ouais, j'ai offert... Qu'est-ce que j'ai offert comme cadeau? Vous savez, moi je m'en souviens pas. Moi, je suis dans le don, moi je suis dans le cadeau, je suis dans le partage. Je me souviens pas de. Qu'est-ce que j'ai offert? Alors les marmots, les marmots, les petits enfants, je leur ai offert une table de mixage de DJ. Je leur ai offert une table de mixage de DJ parce qu'ils ont l'âge. Ça y est, ils ont l'âge. Ils ont l'âge où ils font des pestacles. Ils font des pestacles. J'ai vu plusieurs pestacles l'été dernier avec les enfants. Et à chaque fois, ils galéraient avec un téléphone pour appuyer sur play et tout sur la musique, machin. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais leur offrir. Je vais leur offrir une platine de DJ. Ça a très très bien marché comme cadeau. Hein. Ça a très très bien. Ils ont adoré. Hein. On a branché ça sur l'ordinateur du grand-père. On a installé Serato. On a installé Serato Live. Et je leur ai montré comment on faisait du scratch. Je leur ai montré comment on changeait le son et comment on touchait les potards et tout machin. Ils étaient on fire. Hein. Ils n'ont pas arrêté. Hein. T'as investi dans la prod. Ouais, j'ai investi dans la prod. Voilà, c'est ça, j'ai investi dans la prod. Avec des bonnes enceintes pour faire plaisir aux parents. On n'avait pas d'enceinte, du coup, on avait une espèce de petite. Petite enceinte Bluetooth. C'est tout ce qu'on avait. Petite enceinte Bluetooth. Donc, JBL. Ouais, c'est ça, une JBL. JBL, un truc dans le genre. Un truc dans le genre. Et donc voilà. Prochaine étape, je vais leur offrir des lights. Je vais leur offrir des lights. Des boules à facettes, des éclairages boîte de nuit, une machine à fumer. Je vais carrément faire ça. Hein. C'est complètement comme ça. Et le micro, je vais leur offrir le micro, évidemment, le micro. Bah oui, pour les pestacles, il faut des micros. Ah, t'as raison, j'avais pas pensé au micro. Évite la pyrotechnie pour le moment. Oh, ce serait marrant quand même. C'est quel modèle la table de mixage? C'est une Newmark table de mixage, je sais pas quoi. Un truc que tu branches à ton ordi. Je crois que c'est celle-là. Enfin, c'est ce genre-là, en tout cas. C'est ce genre-là. Je sais pas si je l'ai payé 120 balles. J'ai peut-être payé ça, de remarque. Peut-être payé 120 balles. Hein. Je sais pas, je me souviens plus. Je me souviens plus. Donc voilà. Ça, c'est le cadeau pour les marmots. Sinon, le petit, il a eu Poudlard en Lego. Il a eu Poudlard en Lego. Il est dans sa période Harry Potter. On est en plein dedans. Et du coup, j'ai demandé. Parce qu'on a regardé Harry Potter ensemble. On a regardé Harry Potter ensemble. Et du coup, après, j'ai demandé innocemment à ma sœur. Je lui ai dit, dis donc. À partir de quel âge tu penses que éventuellement peut-être Star Wars, tout ça? Et elle m'a donné la réponse que j'attendais depuis 10 ans. Elle m'a dit, oh, à mon avis, bientôt, l'été prochain. Oh, le marathon Star Wars. Oh, le marathon Star Wars avec le tonton. Ça part en prod. Je veux rien savoir. Rétroprojecteur, c'est parti. Ça va être trop bien. Ça va être trop de la balle. D'ailleurs, Star Wars. Après, on va enchaîner avec Le Seigneur des Anneaux. Le documentaire. Après Dune. Oh non, mais c'est trop bien. Oh non, mais c'est trop bien. Non, mais vous n'êtes pas prêts. Enfin, vous n'allez pas y assister, mais. Lord 4, 5, 1, 2, 3, 6, évidemment. Alors! On a eu le débat avec ma sœur. On a eu le débat avec ma sœur. On a eu le débat. Attends. Dans quel ordre il faut regarder Star Wars? Pour un enfant qui découvre Star Wars pour la première fois de sa vie, qui a donc l'obligation légale d'adorer Star Wars. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par les vieux films? En mode, on commence doucement. Est-ce qu'on fait par ordre de sortie? Est-ce qu'on fait par ordre narratif? Est-ce qu'on fait 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9? 4, 5, 1, 2, 3, 6, parce que ça fait flashback. C'est-à-dire... Vous pouvez me l'expliquer, ça? Je ne l'ai pas. 4, 5, 1, 2, 3, 6. Merde, je suis perdu. Parce que 1, 2, 3, c'est Anakin Skywalker qui devient... qui devient Dark Vador, tout ça, tout ça, tout ça. Et le 6, c'est Skywalker qui se fait buter par... T'as le flashback de la vie d'Anakin avant l'affrontement Luke-Dark Vador dans le 6. Oh. Ah, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Non, non, mais j'ai l'idée. J'ai l'idée. En tout cas, on est tous d'accord, 7-8-9, c'est non. Ah non, on n'est pas d'accord. Moi, j'adore le 7-8-9. Ah non, 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 j'adore le 7-8-9. Non, c'est trop de la balle, le 7-8-9. Vous déconnez ou quoi, Ray, elle est incroyable. Ah non. Commence par la soupe aux choux. Hérésie. Comment ça, hérésie? Ah non, ça va pas commencer. On va pas commencer 2026 en s'engueulant. Hein. On va pas commencer 2026 en s'engueulant sur un point ultra important du débat politique. Est-ce que 7-8-9, on valide ou pas? Moi, ma réponse est oui. On valide 7-8-9. Pourquoi? Parce qu'on est des Yankees. Et un Yankee, ça prend ce qu'on lui donne à manger et ça dit merci. Ça, c'est moi, ça. ça c'est moi avec Star Wars. Moi je dis merci, j'adopte. Je dis ouais. Merci, c'était cool. On valide pas, je suis un conservateur. Non mais voilà, non mais forcément. Non mais si on fait un débat entre les Yankees et les conservateurs, évidemment, on n'est pas rendu. On valide pas, on valide Andorre et Rogue One. Andorre et Rogue One, c'est extraordinaire, moi ça je suis bien d'accord. Après, j'ai bien aimé Solo aussi. Pour définitivement vous énerver, j'ai bien aimé Solo. Je trouvais ça cool. Tu sors. Oh non. Gros Yankee. Ben ouais, gros Yankee. Mais moi, je suis un Yankee de Star Wars. Moi, je suis un giga Yankee. Tu pousses le bouchon. T'as aimé la série Boba Fett? Mais non, mais en fait, faut vraiment que vous compreniez un truc, c'est que je suis un Yankee de Star Wars. Je suis pas un fan de Star Wars. Je suis un Yankee. Ça veut dire que j'aime Star Wars, quel que soit le Star Wars. Moi, je suis content, moi. Moi, tu me mets des sabres laser, des pistolets blaster, une histoire d'amour à la con et la destinée de la galaxie. Je suis content. Les contents. Il fait oui de la tête comme ça. Il fait ouais, merci. C'est ce que je demandais. Je l'ai eu, je suis content. Donc, ça marche aussi avec les séries Star Wars. Séries Star Wars, je les regarde, j'aime bien. Ça ne veut pas dire que je les re-regarde, mais je suis content. Je suis en mode, ouais, c'était cool. Tu es chanceux parce que tu aimes tout. Bah ouais, moi j'aime bien. Ouais, je me souviens, on était allé voir Star Wars combien? 7, je crois, au cinéma avec une bande de potes, dont des gens que je connaissais pas. Et on va voir le film et tout. Moi, je passe un super bon moment. Je suis en mode, oh, trop cool, MDR, trop bien, tu vois. Et on sort de la salle de ciné. Et là, il y a un mec dans la bande de potes qui était ultra vénère, qui était en mode c'est un scandale, je trouve ça gerbé, Disney, ils ont tué Star Wars et tout. Vraiment, le mec passait une mauvaise après-midi, quoi. Et moi, je le regardais, j'étais là, bah. Moi, j'ai bien aimé, moi, bah, c'était cool. Moi, j'ai passé un bon moment dans la salle, toi, apparemment, ça a été une torture, mais moi, c'était, j'ai bien aimé, c'était sympa. Bon. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais de la chance, effectivement. J'ai dit, putain, je préfère être comme ça. Hein. Je suis pas un grand cinéphile, j'ai pas pondu une thèse ou une vidéo YouTube de 4 heures d'analyse de Star Wars, etc. Non, je suis juste un Yankee. C'était moi probablement. Ouais, c'était peut-être toi, c'était peut-être toi. Donc voilà, donc moi je suis un Yankee de Star Wars, donc je vais faire découvrir Star Wars aux petits. Enfin, je vais. Tu parles. Je suis sûr. Vous savez ce qui va se passer. Vous savez ce qui va se passer. C'est sûr. C'est sûr. D'ici à l'été prochain, le gamin il aura déjà vu 3 Star Wars. C'est sûr. C'est sûr. Je connais son père au petit. Hein. Bah, évidemment, il va pas attendre le tonton. Hein. Il va lui spoiler la saga. Voilà. Eh ben c'est pas grave. On rattrapera ce qu'il a rattrapé et puis voilà. Est-ce que les retours vers le futur, ils les ont déjà vus? Non. Non, et ça aussi, tu as raison, ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture très importante, retour vers le futur. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais en CP, non, peut-être pas un peu plus tard, CE2, un truc comme ça, je rejouais les scènes de retour vers le futur dans la cour de récré. Me souviens très très bien. Merci, Corrigan. Il y en avait qui jouaient au foot, il y en avait qui faisaient de l'élastique, il y en avait qui jouaient au pog, il y en avait qui jouaient à je sais pas quoi. Nous, on jouait à Retour vers le futur. Et c'était trop bien. Merci Rictus. Retour vers le futur, ils vont avoir envie d'avoir un skateboard et d'une guitare pour les Noël prochains. Vous savez que. Vous savez que le fait que moi, à l'âge de 13-14 ans, j'ai voulu avoir une guitare électrique et un skateboard, c'est peut-être pas complètement étranger au film Retour vers le futur. Marty McFly, je suis désolé, c'était le summum du cool. Je vous rappelle que le mec, il faisait du skateboard en s'accrochant derrière les voitures de flics. Et ça, je suis désolé pour le petit, pour le petit Jean Massier. C'était trop bien. Et il jouait de la guitare électrique en plus. Trop bien. Donc voilà. Thug Life, exactement. C'était ma Thug Life à moi. C'était mon idéal. C'était mon idéal à moi, c'était Marty McFly. Il était trop cool, Marty McFly. Avec son skateboard. On attend toujours l'overboard. Et on attend toujours l'overboard, hein. C'est fou, hein. Mais en l'occurrence, j'ai déjà offert un skateboard au petit. Je lui ai déjà offert un skateboard l'année dernière. Il a déjà son skateboard offert par tonton Jean. Au moins, tu t'es pas fait draguer par ta mère. Non, non, effectivement, je me suis pas fait draguer par ma mère. Tout va bien. Tout va bien. Bon, en tout cas, vous avez passé un bon Noël et ça fait plaisir. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle année, chers amis. Qu'est-ce qu'on va avoir cette année 2026? Si on prend un petit peu de recul, si on anticipe un petit peu, qu'est-ce qu'on va avoir en 2026 après Jésus-Christ comme programmation sur cette chaîne Twitch? Les élections municipales qui auront lieu en mars. Mars? Mars. Ah non, putain, avant ça, t'as raison. Il y a Zetni qui a raison dans le chat. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Il faudrait peut-être un budget dans ce pays. Je vous rappelle pour mémoire qu'on est tous partis en vacances sans budget. On est tous partis en vacances sans budget. Donc, là, janvier, février, budget. Là, c'est reparti, hein, on repart pour un tour. Budget, probablement par 49.3. Comment il s'appelle François Bayrou. Donc ouais, on commence par un budget. 49,3, a priori, on verra. Puis, on enchaîne sur les élections municipales. Campagne municipale, élections en mars, tout ça, tout ça, tout ça. (coughs) 49,3, donc vote de confiance, donc bye bye le cornu. Alors, non mais on verra ça. Parce que 49,3 égale, non pas vote de confiance, mais vote de censure, je te rappelle. Motion de censure, va-t-elle être adoptée la motion de censure contre Sébastien Lecornu ? Compte tenu du fait que l'an dernier, la motion de censure n'a pas été adoptée suite à l'abstention de la votée des socialistes. Merci Lexa. Les socialistes avaient accepté de ne pas censurer le budget de François Bayrou pour deux arguments. Le premier, on a besoin d'un budget. Le deuxième, François Bayrou s'était engagé à ouvrir une discussion entre les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. C'est ce qu'on a appelé le conclave, qui a finalement été un échec, même s'il a donné plus tard ce conclave le feu vert des macronistes pour une suspension slash décalage de la réforme des retraites dans le cadre du budget de la sécurité sociale, qui a permis de le faire adopter avec les voix des socialistes. Ça, rappelez-vous, c'était en novembre dernier. Pour ce qui est du budget de l'État, donc, il a été rejeté, donc il va bien falloir l'adopter dans le courant du mois de janvier-février. Et donc 49,3, motion de censure, point d'interrogation. Une motion de censure va-t-elle être adoptée dans le cadre de l'examen du budget 2026 ? C'est une bonne question. Est-ce que Sébastien Lecornu va faire des avancées en direction des socialistes de manière à obtenir leur abstention, comme l'avait fait François Bayrou ? Est-ce que Lecornu va estimer que les avancées ont déjà été faites et que ce n'est pas nécessaire ? Ça, c'est un peu la question. Il va le faire, il n'a pas le choix. Je pense comme toi qu'il n'a pas vraiment le choix, Sébastien Lecornu, et je pense que les socialistes, dans l'intervalle, c'est-à-dire en ce moment, font monter les enchères. Et ils ont raison. Enfin, je veux dire, ils ont raison. On est dans une négo, hein. On n'est pas là pour... voilà. Donc... Vous avez vu, j'arrête pas de tousser, c'est chiant. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Vous en pensez quoi, vous ? Vous en pensez quoi ? On se dirige vers une motion de censure adoptée ? On se dirige vers quoi ? Est-ce que 2 ans sans budget, c'est possible ? Non. Même 1 an sans budget, c'est pas vraiment réaliste. L'année dernière, rappelez-vous, il y a eu un budget. Il a été adopté tardivement, en janvier-février, mais il y a eu un budget qui a été adopté. La loi spéciale qui a été votée en décembre ne sert qu'à passer les fêtes pour éviter un shutdown, mais il faut bien qu'un budget soit adopté ensuite dans le courant du mois de janvier. Je pense que ça sera compliqué de censurer étant donné qu'on voit bien que Lecornu essaye de faire avancer les choses avec tout le monde. Oui, mais... Oui, mais il y a une petite donnée. Il y a une petite donnée qu'il ne faut pas oublier, qui s'appelle l'élection présidentielle, sa mère. Et l'élection présidentielle, elle trotte dans le crâne de tout le monde, de toutes les formations politiques, et il y a peut-être des formations politiques qui n'ont pas envie de faire un cadeau à la Macronie à 1 an et demi de l'élection présidentielle. Sous-entendu qu'on n'a pas envie de faire ce qu'a fait le PS avec le budget de la sécurité sociale, c'est-à-dire se rapprocher des macronistes. C'est peut-être pas le moment de se rapprocher du macronisme alors qu'on commence à en voir la fin du macronisme et qu'on suppute, à tort ou à raison, que 2027 va être l'occasion de l'ouverture d'un nouveau chapitre, d'une alternance, quelle qu'elle soit. Est-ce que Lecornu, candidat macroniste au présidentiel, ça peut se faire ? Oui et non. Oui, parce que Sébastien Lecornu est Premier ministre et qu'à ce titre, il peut bénéficier du soutien du camp macroniste. Non, parce que Sébastien Lecornu a un profil qui est assumé par lui-même, y compris comme un profil, comment dire, assez peu politique au sens de candidat potentiel à une élection suprême. Sébastien Lecornu se définit lui-même, en tout cas se définissait lui-même en septembre dernier, comme un moine soldat. Je suis un bon petit soldat, je suis là pour faire travailler les gens ensemble, je suis là pour donner à la France un budget, je ne suis pas là pour jouer une partition politique majeure. Il y a des hommes politiques comme ça qui font de leur absence d'ambition personnelle une qualité. C'était le cas de Jean Castex, par ailleurs. Jean Castex ne gênait personne. Jean Castex n'avait pas vocation à devenir candidat à l'élection présidentielle, etc. Donc, tranquille. D'autres premiers ministres ont eu plutôt l'envie de faire jouer leur propre partition pour exister médiatiquement, notamment, et auprès de l'opinion publique, et porter leur propre politique publique, quitte à être en désaccord avec l'Élysée. Et ça a été le cas, bah tiens, comme par hasard, des candidats quasi déclarés à l'élection présidentielle, Gabriel Attal, Édouard Philippe. Sébastien Lecornu n'appartient pas à cette classe-là. Sébastien Lecornu appartient davantage à la classe de Jean Castex. Bon, une fois que j'ai dit ça, on a déjà vu des moines soldats se révéler plus tard être des candidats à l'élection présidentielle parce que, bah tiens, tu cites par exemple, il y a Raphaël qui cite François Fillon. Oui, t'as pas tort. François Fillon, de 2007 à 2012, c'était le moine soldat de Nicolas Sarkozy. C'était le mec sans ambition, c'était le mec sans avenir politique personnel, c'était le mec gentil, dans l'ombre, qui s'efface par rapport à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, etc. François Fillon, c'était le collaborateur de Nicolas Sarkozy. C'était pas un candidat à l'élection présidentielle, certainement pas en 2012. Bon, bah finalement, en 2017, François Fillon a déclaré sa candidature à la primaire et il a remporté la primaire. Et il s'est retrouvé le candidat du camp de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Bon, comme quoi. Édouard Balladur, ouais, Édouard Balladur, t'as raison, oui, Édouard Balladur. Très, très bon exemple. C'est le cas d'Édouard Balladur. Dominique de Villepin. Alors, Dominique de Villepin a été catapulté Premier ministre par le camp Chirac avec l'idée derrière la tête d'en faire un candidat à l'élection présidentielle pour concurrencer la domination sans partage de Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin, c'était le candidat anti-Sarkozy du clan Chirac. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire, il s'est planté sur le CPE, il s'est retiré, terminé, pas de candidature à l'élection présidentielle. Mais Dominique de Villepin, il avait vocation à avoir de l'avenir, le petit. Question, est-ce que si Macron dissout moins d'un an avant les présidentielles, le nouveau président pourra dissoudre dès son élection ? Non. Voilà, t'as la réponse. Il n'y a pas de reset cooldown sur la dissolution. Quand vous faites une dissolution, vous organisez donc des élections législatives, et dans l'année qui suit ces élections législatives, il ne peut y avoir de nouvelles dissolutions. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Le fait qu'un président de la République soit élu pendant ce temps-là ne change rien au fait qu'il ne peut y avoir d'élections législatives à nouveau organisées pendant ce délai. Voilà. Donc tu te démerdes. Il peut provoquer des législatives un mois avant les présidentielles. Oui, même si un mois avant la présidentielle, je crois qu'on n'est plus en session parlementaire, donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais je crois que techniquement, oui, tu peux dissoudre un mois avant la présidentielle, si vraiment tu as envie de faire chier ton successeur. Est-ce que tu penses que ça peut être un move à faire avant une élection, quand t'es sûr de perdre, dissoudre juste avant les présidentielles pour bien foutre la merde ? En fait, je crois pas qu'il y ait d'envie de la part d'Emmanuel Macron ou qui que ce soit de foutre la merde. En fait, ça fait rire personne. Nous, ça nous fait marrer parce qu'on est là, on rigole, mais en fait, c'est pas marrant. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien de provoquer un blocage institutionnel d'un pays dont tu as toi-même la présidence. Aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Enfin, qui a envie de faire ça ? C'est pas un kiff. C'est comme un sondage grandeur nature. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, je sais pas. Mais je trouve ça intéressant que vous émettiez l'hypothèse qu'il y ait des gens qui ont envie de faire chier, pour le plaisir. Enfin, il y a une espèce de foutre la merde comme si c'était souhaitable ou souhaité par qui que ce soit en politique. Dire, tiens, je vais foutre le bordel. Non, personne ne fait jamais ça. Ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est de gagner l'élection présidentielle. C'est de faire une très bonne campagne législative pour avoir le plus de poids possible à l'Assemblée future, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité. C'est ce qui est reproché à certains partis à l'Assemblée. Oui, non, oui, je sais. D'ailleurs, t'as raison. J'étais en train d'y penser, mais je suis en fait, j'ai le même reproche à faire envers les gens qui disent ça. Ouais, les insoumis, ils cherchent le chaos. Non, non, non. Les insoumis, ils cherchent l'insoumission. Ils cherchent pas le chaos. Le fait est que ça te fait chier toi, mais c'est pas pour le plaisir de t'emmerder. Les insoumis, ils veulent avoir le plus de pouvoir possible. Ils veulent qu'Emmanuel Macron fasse le moins de dégâts possible et que leurs idées à eux triomphent le plus possible. En fait, les insoumis, ils font le béaba de ce que fait un parti politique dans une vie politique parlementaire normale, dans un pays développé. Enfin, c'est pas. Non, non, les insoumis ne font pas des réunions en se posant la question de savoir comment on peut emmerder la France au maximum. Plus possible. Hein. Non, ils font pas ça. Ils sont pas engagés pour ça en politique. C'est pas leur. Non, pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Oui, sur l'hypothèse, parce que vous parliez de l'hypothèse d'une dissolution. L'hypothèse d'une dissolution dans l'année qui précède l'élection présidentielle, outre poser cette question du calendrier, donc de redissolution plus tard, en fait, pour moi, c'est pas compliqué. Emmanuel Macron ne souhaite pas dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. Il l'a fait une fois, il s'est planté, il n'a pas envie de le refaire. Et de vous à moi, à mon avis, il a raison. Je dis pour lui, hein. De son point de vue à lui, je serais lui, je ne le ferais pas. Mais il est possible qu'on arrive à une situation dans laquelle Emmanuel Macron n'a pas le choix. La dissolution, ce n'est pas toujours un truc qu'on fait de gaieté de cœur. Il y a des circonstances dans lesquels on se retrouve contraint de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que la situation est intenable, impraticable. Faut imaginer, je ne sais pas, un mouvement social, plusieurs millions de personnes dans les rues, un blocage du pays, une grève générale, j'en sais rien. Il faut imaginer des circonstances comme ça, exceptionnelles, dans lesquelles le président de la République se retrouve de fait contraint et forcé d'admettre que là, il n'y a plus d'autre solution que de dissoudre tout de suite. Et on fait des élections, on clarifie le jeu, etc. Advienne que pourra pendant les élections, ça on verra. Mais voilà. Démocratiquement parlant, si tu sens que tu ne représentes plus la majorité du peuple, c'est pas déconnant de dissoudre. Oui, mais personne ne le fait pour cette raison-là. Être impopulaire n'est pas une justification suffisante pour dissoudre. Tout le monde est impopulaire, je vous rappelle, hein, règle de base. Tout le monde est impopulaire dès lors que vous avez le pouvoir. Ça vous arrivera un jour, vous verrez. C'est pas grave, c'est comme ça. Dans ce cas, il y a aussi la possibilité de démission, mais il ne le fera jamais, je pense. Bah, pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer sur le caractère intenable de la situation qui te pousse à dissoudre, il peut arriver que les choses soient tellement intenables que tu en viennes à démissionner de ton poste de président de la République. C'est possible que tu sois contraint à la démission. Ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais disons que dans la riposte graduée, tu as d'abord la dissolution, enfin tu as d'abord le remaniement, puis la dissolution, puis la démission du président de la République. Tu fais les choses dans l'ordre. Tu commences pas par démissionner. Mais Admettons, c'est toujours pareil, en politique fiction, on peut tout imaginer. Imaginons qu'il y ait un scandale majeur, gravissime, qui touche le président de la République en personne. Là, on a un problème présidentiel. On a un problème grave, on a eu un scandale, je sais pas, Mediapart, Fabrice Arfi, qui révèle je sais pas quoi, qui fait que la cote de popularité descend à moins de 5%, il y a des centaines de milliers de manifestants dans les rues qui demandent sa démission, le pays est à l'arrêt, c'est le bordel, ça va pas du tout, tous les pays Amérique, tous les autres pays d'Europe commencent à s'inquiéter, il y a des prises de parole dans les conférences de presse des chefs d'État, commencent à dire oui, on regarde de près ce qui se passe en France, enfin vraiment, là, il n'y a plus rien qui va. Oui, là, la démission du président de la République peut être une solution. En disant le problème, c'est moi, de toute évidence. Je me casse dans l'intérêt de la France. Je me casse dans l'intérêt du pays. Voilà, je présente ma démission. Voilà. Il y a la destitution. Alors, tu as raison, il y a toujours la possibilité de la destitution qui n'est non pas une démission du président, mais un renvoi du président par le Parlement. Il y a une procédure très précise qui est prévue pour la destitution. Rien n'est automatique, mais faut voir. Merci des Décadrachmes. Ou sur un référendum raté. Ouais, alors ça, c'est ce qu'on appelle les référendums plébiscitaires. C'était la pratique gaullienne du référendum qui voulait que dès lors qu'un président de la République déclenche un référendum et qu'il perd ce référendum, il en tire des conséquences pour lui-même en présentant sa démission. Le problème du référendum révocatoire, c'est que ça dévie la question du référendum sur une question de popularité du chef de l'État. En gros, les Français sont invités à voter sur une question à la con, on s'en fout. La seule question que se posent les électeurs, c'est est-ce que j'aime ou pas le président de la République? Et donc je vote oui ou non à la démission du président de la République. Parce que c'est ça la question que j'ai compris. C'était ce qui était arrivé à Charles de Gaulle en 1969. Charles de Gaulle avait prévenu, hein, en conférence de presse, Charles de Gaulle avait prévenu, il avait dit, si je perds ce référendum, j'en tirerai des conséquences. Ça voulait dire, je démissionnerai. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, il a perdu le référendum. Tout le monde s'en foutait du référendum. C'était un référendum sur la régionalisation. Tout le monde s'en foutait. Les gens ont voté contre De Gaulle. De Gaulle est parti. Voilà, c'est ce qui s'est passé. À partir de 2005, on a arrêté d'avoir des référendums de ce type-là. C'est-à-dire qu'on a eu des référendums. Enfin, non, on a eu un seul référendum. En fait, c'était celui de 2005. Je ne sais pas pourquoi je parle de plusieurs référendums. On a eu le référendum de 2005, dans lequel Jacques Chirac avait prévenu, je crois de mémoire, hein, que Jacques Chirac, avant le référendum, avait prévenu que le référendum passe ou ne passe pas, ne changerait rien au fait qu'il resterait président de la République jusqu'au terme de son mandat, en l'occurrence 2007, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Macron n'avait-il pas dit qu'en 2025, il y allait avoir plus de référendums? Si. Si, il l'a dit. Emmanuel Macron, dans son discours des vœux de 2024, quand il a souhaité bonne année 2025 aux Français, il a dit une phrase du genre. Comment il l'a dit déjà? Vous serez consulté sur des questions importantes. Bref, tout le monde avait compris référendum. Tout le monde avait compris référendum. Moi, le premier, hein, j'avais dit, OK, d'accord, bah, il y aura un référendum en 2025. Sur quel sujet le référendum? Bon, et puis finalement, 2025 s'est passé comme vous savez. Ça a été le bordel. Gouvernementalement parlant, François Bayrou a déclenché son propre départ en septembre avec un vote de confiance qu'il a perdu, puis nomination de Lecornu, puis budget, abonnement à la chaîne de Jean Mercier, tout ça, tout ça. Enfin bref, 2025, je vais pas vous refaire l'histoire. Emmanuel Macron n'a pas, semble-t-il, trouvé ni le modus operandi, ni le sujet sur lequel faire un référendum pendant cette année, cet annus horribilis. Voilà. On verra s'il y aura un référendum en 2026. Faire un référendum à un an d'une présidentielle, je suis pas sûr du move, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous demanderai de trancher sur des questions. Ah oui, c'était ça. Je vous demanderai de trancher sur des questions. Ok. Bah, on n'a rien tranché du tout, hein. Donc, référendum 2026, peu probable, mais sait-on jamais. Démission d'Emmanuel Macron, très peu probable, sauf scandale majeur. Dissolution 2026, très peu probable, compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron n'a aucune envie de dissoudre. Merci Zugest. Zugestelt, merci beaucoup. Très peu probable la dissolution en 2026, mais il y a toujours la possibilité qu'une dissolution s'impose d'elle-même comme la seule solution à un problème inextricable. À voir. Une motion de censure qui passe. Je réfléchis. Hein. Pourquoi pas, mais en même temps, je veux dire, une motion de censure qui passe dans un parlement dans lequel il n'y a pas de majorité, c'est pas très spectaculaire. Enfin, je veux dire, on le sait que le gouvernement est minoritaire. C'est pas très compliqué. D'autant que je ne sais plus si c'était Hervé Marseille ou un autre député qui avait analysé le truc en disant, en fait, le problème qu'on a, c'est que la motion de censure est probablement le seul texte sur lequel beaucoup de gens arrivent à se mettre d'accord dans cette assemblée. Parce qu'en fait, c'est pas très compliqué une motion de censure. C'est-à-dire, c'est pas comme s'il y avait des amendements, des textes, des mesures, etc. Non, c'est juste la censure du gouvernement. Il y a plein de gens, tu leur demandes, vous êtes contre le gouvernement? Ils disent, ah, je suis contre. Donc en fait, c'est facile à voter une motion de censure. Une loi, c'est difficile à voter. Un budget, c'est difficile à voter. Parce que là, il y a un ensemble de mesures, de textes, etc. Merci Anguille Creuse. Donc en fait, on a une assemblée qui est infoutue de produire des budgets, mais qui est tout à fait capable de produire des motions de censure. C'est très bien, sauf qu'on dirige pas avec un, on ne dirige pas un pays avec des motions de censure, mais avec des budgets. Je prends l'exemple du budget, j'aurais pu prendre l'exemple de d'autres lois ordinaires. Il y a une majorité contre, mais pas de majorité pour. En gros, c'est un peu ça. En gros, c'est un peu ça. Ouais. Donc bon, chiant quoi. Avec un 49-3 sur le budget qui tourne en motion de censure, ça fait dissolution, non? Merci Paulus. Pas automatiquement. Pas automatiquement. Ça pourrait être l'une des conséquences logiques, je suis d'accord avec toi, mais si on a un 49-3 sur un budget qui tourne en motion de censure, bah c'est déjà arrivé à l'époque de Michel Barnier, c'est déjà arrivé à l'époque. Alors, c'était pas une motion de censure, c'était un vote de défiance, un vote de confiance, pardon, en septembre pour Bayrou. Dans les deux cas, il n'y a pas eu de dissolution. Merci Arthénos, merci. Est-ce que la situation internationale pourrait pas finir par rapprocher les partis pour avoir un budget? Non. Non, la raison pour laquelle je dis non, c'est pas que j'y crois pas dans l'absolu, c'est que tu as raison de dire qu'il y a des moments dans l'histoire où la gravité des situations internationales force les forces politiques à se rassembler, à doter le pays d'un budget malgré leurs divergences, etc., etc. Notamment un contexte de guerre, par exemple. Merci, Anarcho-Oligarque. Ceci étant, la situation d'imprécision qu'on a actuellement à l'Assemblée nationale, elle existait déjà au moment de la guerre en Ukraine, elle existait déjà au moment de la guerre à Gaza, elle existe déjà avec les tensions avec l'Algérie. Enfin bon, le fait que Donald Trump enlève un chef d'État en Amérique latine, ça me paraît fou de prononcer cette phrase, mais oui, ça s'est bien passé. Ça a bien eu lieu, n'est pas de nature, je pense, à forcer les forces politiques nationales françaises à adopter un budget. Tu vois, je... C'est une invasion du Groenland. Je réfléchis. En fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à savoir, ça me paraît tellement fou, mais je n'arrive pas à savoir quel serait l'impact d'une invasion du Groenland sur l'Europe, sur la France, sur l'OTAN, sur, enfin, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si demain Donald Trump engage des forces armées pour envahir militairement un territoire qui relève de l'autorité d'un pays membre de l'OTAN, on rentre en guerre? Enfin, je veux dire, c'est ça le truc? On envoie des frégates, on envoie des sous-marins, on envoie des avions, on rentre en guerre contre les États-Unis, c'est ça le... Ça me paraît. Je suis désolé, mais. Putain, la vache. Moi, j'ai 37 ans. J'ai 37 ans. Jamais je n'ai imaginé l'hypothèse d'une guerre ouverte entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Jamais. J'ai jamais même pensé que ce scénario puisse exister un jour. Ça ne veut pas dire que ça n'existera jamais. C'est juste vous dire à quel point c'est difficilement pensable. L'histoire est pleine de surprises. Ouais, malheureusement, l'histoire est pleine de surprises. Tu me diras, j'aurais jamais cru que la Russie envahirait l'Ukraine, hein. Tu aurais jamais cru que Donald Trump enlèverait Maduro. Il y a encore 2 jours, ça me paraissait quand même hautement improbable. Vous m'auriez dit ça, quelqu'un dans le chat m'aurait dit, ouais, et si Trump enlevait Maduro? Je t'aurais répondu. C'est-à-dire, comment ça À Caracas, là, avec des hélicoptères et tout, il va chercher Maduro, il le prend, il l'emmène. Bah oui. C'est bon, bah, on est incrédule face à l'histoire, évidemment. Donc, pour te répondre, si les États-Unis envahissent le Groenland, je pense que nos sujets de conversation ne seront plus la question budgétaire. Je pense qu'on n'en aura plus, grosso modo, plus grand-chose à foutre. Enfin, Ce sera grave, mais tellement moins grave que la réalité factuelle du potentiel d'entrée en guerre frontale face aux États-Unis d'Amérique, qui, elle, est gravissime. Tu streameras si les US attaquent le Groenland, j'espère. Bah oui, oui, moi je vais pas m'arrêter de streamer, évidemment. Je n'habite pas au Groenland, tant mieux pour moi de ce point de vue-là. Par contre, si dans le cadre des mesures de rétorsion face à l'invasion du Groenland par les États-Unis, l'Europe décide de couper les services Internet américains en Europe, bye bye Twitch, bye bye YouTube, bye bye Netflix. Go Dailymotion, ben, il ne nous restera plus que Dailymotion. Bye bye Gmail, ouais putain, bye bye Gmail. Bon. J'en sais rien, évidemment, j'en sais rien. Je parle de ça. Je parle de ça. Non, je pense que pour éviter que l'Europe et la France désactivent Twitch dans le cadre d'un conflit armé face aux États-Unis, le mieux, c'est de montrer l'importance que revêt Twitch pour la culture des internautes français et européens. Et pour ça, le mieux, c'est de s'abonner à la chaîne Twitch de Jean Massier. Je ne vois pas d'autre moyen que d'envoyer un message clair sur la nécessité de conserver ce service en ligne. Est-ce qu'il faut s'abonner si tu ne peux plus stream? Surtout, surtout. Moi, j'aurais dit développons nos outils européens, mais bon. Oui, aussi, mais dans l'intervalle, dans l'intervalle. Dans l'intervalle, le temps que ça arrive. Merci Nicolas B de défendre l'Europe. Il y a des chances que l'administration Trump prenne un camouflet au tribunal. Les USA restent quand même un état de droit. Là, on parle de kidnapper un chef d'État étranger. Il pourrait être une immunité diplomatique. Bref, je pense qu'ils ne se rendent pas compte dans quoi ils s'embarquent. Putain, tu sais que j'ai pensé... J'ai vu un mec sur Twitter qui a posé une question, que je trouve une très bonne question, qui dit mais... Parce que là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Nicolas Maduro va être présenté au tribunal aux États-Unis, à New York, où il fait face à des charges de trafic de drogue, etc. Machin. Qu'est-ce qui se passe si les avocats de Maduro obtiennent sa remise en liberté? Ben, je sais pas. Moi, je serais Nicolas Maduro. Je serais Nicolas Maduro. Je me retrouve remis en liberté. J'irai à pied tranquillement comme ça à Central Park. Et puis je ferai des selfies comme ça. Genre petit week-end à New York. C'est joli, hein. Ah, c'est sympa. J'ai toujours rêvé d'aller à New York. C'est très beau. Bon, allez, il est temps de rentrer maintenant. Et il rentre en légende comme ça. Les procureurs ont dû garantir à Trump que le dossier était solide. Oui. Non mais enfin bon, évidemment tout ce que je viens de raconter était une blague. Je n'imagine pas l'administration Trump ne pas avoir bordé le truc de manière à garantir le maintien en détention de Nicolas Maduro pendant tout le procès. Merci aux aguichots. Son arrestation était-elle légale? Alors, du point de vue du droit américain, de ce qu'a expliqué Marco Rubio, en l'occurrence secrétaire d'État aux États-Unis, je crois, c'est que l'armée américaine n'a fait qu'exécuter un mandat d'arrêt international émis par le département de la justice. Et que donc, tout ça est parfaitement légal. Dans le droit américain, ce qu'a fait l'armée américaine, c'est ni plus ni moins que filer un coup de patte au ministère de la Justice pour aller retrouver un fugitif. Du point de vue du droit international maintenant, rien n'était légal dans ce qui s'est passé. Rien, absolument rien. Merci Polisson. Le fait de bombarder la capitale d'un pays sans déclaration de guerre devant le Congrès, sans avoir saisi les instances des Nations Unies, le fait d'enlever physiquement un chef d'État, merci Brachy Pelmax, le fait d'enlever physiquement un chef d'État pour le ramener dans ton pays, etc., tout ça n'est absolument pas conforme au droit international. Je vous rappelle qu'aux yeux du droit international, un chef d'État en exercice, ça ne veut pas dire quelqu'un de légitime. Ça ne veut pas dire quelqu'un de sympa, ça ne veut pas dire un démocrate, ça veut pas dire... Non, ça veut dire quelqu'un qui exerce le pouvoir. De la bonne ou de la mauvaise manière, ce n'est pas le sujet. Merci Tanguy. Dans la mesure où les USA ne reconnaissent pas Maduro comme chef d'État, du coup, l'immunité ne tient pas non plus. Bah, ça va être l'argument, évidemment, qui va être utilisé par les Américains pour justifier l'arrestation de Maduro. Non, mais t'as raison. C'est-à-dire, en fait, pour les États-Unis, virgule, Maduro n'est pas le président légitime du Venezuela. C'est un brigand, c'est un criminel, c'est un dictateur, c'est un machin... c'est pas le président légitime du Venezuela. Pour les États-Unis, encore une fois. S'il est reconnu dictateur, c'est qu'il exerce le pouvoir illégalement, certes. Ouais. Mais rappelez-vous au moment, par exemple, de Saddam Hussein. Saddam Hussein a été capturé par les Américains en Irak et il a été remis à la justice irakienne. C'est un tribunal irakien qui a condamné à mort Saddam Hussein. C'est pas les Américains, ils l'ont pas emmené à New York, hein. Moi, j'ai vu d'ailleurs, j'ai vu des tweets de diplomates, etc., hier, qui disaient, et je trouve ça assez intéressant, de dire qu'en fait, les États-Unis n'auraient jamais dû emmener Maduro aux États-Unis. C'est pas selon les lois américaines que Maduro doit être condamné, si d'aventure il devait être condamné. C'est au Venezuela. C'est au Venezuela de faire appliquer son droit. Donc non, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'a fait Donald Trump est proprement scandaleux. Proprement scandaleux, y a rien qui va. C'est contraire aux règles élémentaires et aux bases du droit international moderne tel qu'il a été construit depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une morgue incroyable. C'est très assumé comme étant une opération de manière à remettre la main sur le pétrole vénézuélien, qui est une des premières ressources mondiales, première réserve mondiale. Donc c'est absolument scandaleux. Et que le fait que Nicolas Maduro soit à la tête d'un régime qui, par ailleurs, a un milliard de problèmes dictatoriaux, oppression des réfugiés partout dans le monde, etc., enfin vraiment, il n'y a rien qui va, n'est pas antinomique de la première partie de la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, les deux sont possibles en même temps. Nicolas Maduro est un salaud, Donald Trump est un salaud, pour ce qu'il a fait à Maduro. Et les deux sont possibles. C'est pas. Voilà. Ne serait-ce pas un message pour l'ensemble des chefs d'État? Ben si, mais bien sûr que si. Mais c'est terrible. Et en plus, encore une fois, c'est ça qui est fou, c'est que c'est assumé. C'est assumé en 4K sur Twitter, etc., par Donald Trump. Donald Trump qui a menacé verbalement le Mexique, la Colombie, le Panama, je crois. Grosso merdo de la même chose, quoi. Et le Groenland. Et Cuba. Oui, Cuba, t'as raison. Cuba aussi. Et puis par ailleurs, ça aussi c'est une analyse qui à mon avis est bonne, c'est de dire attendez, 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 à partir du moment où les États-Unis se permettent ça, s'autorisent ça, qu'est-ce qui empêche les Chinois d'envahir Taïwan? C'est quoi l'argument pour dire aux Chinois ah non, hein, ah non, vous n'avez pas le droit. Hein. Vous avez vu ce qu'il vient de faire, le mec? Il a bombardé Caracas et il a enlevé le chef d'État. Il est où le problème en fait? Et puis, par ailleurs, pardon, excusez-moi je sais que la vanne a été faite 1000 fois sur Twitter, mais je vais la faire aussi. Vladimir Poutine qui envahit l'Ukraine. Je veux dire, pardon, mais ça aussi, dans le genre, Vladimir Poutine, il a dû sacrément rigoler quand il a vu ça. Il a dit, bah, vous voyez, c'est pas compliqué. On peut envahir un pays voisin. Tranquille. Les États-Unis viennent de le démontrer, aux yeux du monde. Il n'y a pas de souci. Donc arrêtez de m'emmerder avec l'illégalité aux yeux du droit international de l'invasion de l'Ukraine. Eh bah, merci Trump. Merci Trump pour ce cadeau à Poutine, il n'en demandait pas tant. Donc c'est inquiétant vis-à-vis du droit international et de son avenir. Merci Camille 44. L'ordre du monde qui a été régi par des règles internationales depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, la création des Nations Unies, la volonté de donner un cadre légal et juridique aux relations entre les États dans le monde, est aujourd'hui battu en brèche par la puissance et la force. Merci Sabine. La puissance et la force brute de grandes puissances qui se jaugent à l'aune de leurs armées, de leur capacité à mener des opérations militaires en dehors de tout cadre légal. Et c'est très dangereux. Et c'est très dangereux, et je ne dis pas ça parce que l'Europe est un nain diplomatique. Merci Bébert, d'autant que je ne crois pas que l'Europe soit un nain diplomatique, mais c'est que c'est dans l'intérêt de personne à la surface de cette planète qu'on rentre dans, à nouveau, si je puis dire, dans un régime de puissance. Merci Montmaker. Bah si, c'est dans l'intérêt des puissances. Alors ça, c'est un débat géopolitique, économique, etc. sur est-ce que c'est dans l'intérêt de qui que ce soit d'avoir ce genre de monde-là. Je suis même pas sûr que ce soit dans l'intérêt des États-Unis. Je suis même pas sûr que l'économie américaine bénéficie tant que ça des tarifs douaniers américains, par exemple. C'est à débattre, à discuter, mais visiblement, c'est surtout l'inflation pour l'instant pour les Américains. Un proche de Poutine a évoqué la possibilité d'enlever le chancelier Merz il y a quelques heures. Enfin, mais ça me paraît lunaire. Ça me paraît lunaire, et pourtant c'est le monde dans lequel on vit en 2026. C'est une puissance régionale qui enlève un chef d'État qui ne lui convient pas. Tout simplement. Je vous rappelle que dans l'invasion de l'Ukraine, dans les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, merci Pistelu, l'un des objectifs de l'armée russe, c'était Kiev. Et c'était Zelensky. Merci, CatCode. Les Russes ont essayé d'enlever Zelensky. Ils n'ont pas réussi. Merci, Ambielo. Ils n'ont pas réussi à l'enlever, mais ils sont intervenus en fonçant sur Kiev avec l'objectif final de le neutraliser ou de... Voilà. Merci, petit dragon vert de rage. On revient au temps des colonies où le colonisateur place ses présidents dans les pays qu'il veut contrôler. Ouais. L'Ukraine, c'est différent. Poutine avait déjà alerté à l'époque que l'Ukraine, c'était sa ligne rouge. Personne ne l'a écouté à l'époque. Mais parce qu'on s'en branle. C'est-à-dire que ça énerve Poutine qu'un pays souverain fasse des trucs de pays souverain. Quelle logique pour un pays de l'OTAN d'attaquer un autre pays de l'OTAN? Il se passerait quoi avec l'article 5? J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Alors vraiment, là, pour le coup, s'il y a bien un truc que je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui se passe si deux pays de l'OTAN se mettent sur la gueule? L'OTAN est une alliance militaire. C'est censé être des pays alliés. Si t'en as deux qui sautent sur la tronche, que devient l'OTAN? J'en sais rien. Je sais pas. Pourtant, ça avait couiné aux États-Unis quand il y avait des missiles dans un pays voisin, au hasard Cuba. Ben oui, mais typiquement, la crise des missiles de Cuba, elle a été réglée au téléphone. Entre Kennedy et l'URSS. Enfin, je veux dire, c'est la diplomatie qui a triomphé au moment de la crise des missiles de Cuba. La crise des missiles de Cuba, c'est le parfait exemple d'un moment gravissime de tension qui peut potentiellement éclater en guerre nucléaire, machin, qui est évité parce que les gens se parlent, parce que les chefs d'État échangent, discutent, se mettent autour d'une table et décident de normaliser leurs relations et tout. C'est ça le droit international. Alors, on utilise droit international, machin, mais droit international, c'est une reconnaissance mutuelle des légitimités, c'est le fait de s'asseoir autour d'une table, pas forcément pour réussir à se mettre d'accord, on n'y arrive pas toujours, mais au moins on essaye, on se donne un cadre. On essaye de jouer réglo. Bah, on se parle. Ça marche pas toujours, mais. Quelle ligne rouge doit être franchie pour que la Chine réagisse? Sur le Venezuela? Merci. Citri Paradisi. Je sais pas. Pour le coup, je sais pas. Je sais que la Chine a réagi assez négativement à ce qu'a fait Donald Trump, notamment parce que la Chine avait des partenariats stratégiques avec le Venezuela. Quelques partenariats, je crois. Après, ils vont pas se mobiliser particulièrement sur cette région-là du monde qui les concerne relativement peu, je pense. Merci, on débarque. Par contre, la réaction de Macron, au secours. Au secours, la réaction de Macron. Oh. Attends, on va y retourner. Alors, c'est marrant parce que. Hop, hop, elle est là. Le peuple vénézuélien, donc c'est Macron qui parle, hein, le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolas Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Je m'entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région. La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d'incertitude. Enfin, il n'a même pas prononcé le mot États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Merci, Père Castor. Illégalité, droit international, instabilité de la région, je sais pas, j'en sais rien. Des trucs un peu basiques hein, pour dire que c'est pas ouf quand même ce qui s'est passé. Je veux bien que la diplomatie nécessite d'utiliser un langage plus subtil et parfois plus courtois. Quand on est chef d'État, que quand on est simple streamer sur Twitch qui peut se permettre de dire des gros mots, etc. Ok, d'accord, j'accepte le fait que un communiqué de presse, quel qu'il soit, d'un chef d'État sur ce genre de sujet ne monte pas dans les tours. Ok, je veux bien, ça c'est la diplomatie, c'est nécessaire. Mais là, quand même, pardon. Putain, quelle déférence vis-à-vis des États-Unis. C'est d'autant plus surprenant, pardon, c'est quand même d'autant plus surprenant que Emmanuel Macron nous a quand même habitués à mieux par le passé. Dieu sait que j'aime pas Emmanuel Macron pour un milliard de raisons, mais sur les questions internationales et sur le fait de se séparer de la vision trumpienne du monde, Macron, ça fait depuis 2017. Il nous explique quand même le droit international, le multilatéralisme, le dialogue de paix. Enfin, revoyez les discours d'Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies et mettez-les en parallèle avec ce Trump. Vous verrez ce que c'est que la différence fondamentale entre un taré américain et un président européen. Je veux dire, Emmanuel Macron, l'été dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies, pareil, il avait tenu la ligne européenne sur la nécessité du dialogue, sur l'importance du droit international, sur enfin, je sais pas, moi, le respect des souverainetés et tout. Et là, franchement, 3 janvier, il nous sort un truc complètement naze, anti-Maduro. Non mais très bien, okay, admettons, non mais tu peux critiquer Maduro, il n'y a pas de souci. On peut le dire que c'est une bonne chose dans l'absolu que Nicolas Maduro ne soit plus au pouvoir au Venezuela. Et encore, on va en reparler, parce que c'est pas du tout sûr qu'il soit plus au pouvoir au Venezuela. Tu peux quand même commencer par dire quelque chose sur ce qu'a fait Donald Trump et sur la gravité de ce qu'a fait Donald Trump. Alors, visiblement, Emmanuel Macron a pris conscience dans la nuit du fait que c'était à chier son communiqué sur Twitter. Visiblement, les gens lui ont dit. Hein. Les gens lui ont dit. C'était pas ouf. C'était même carrément de la merde d'Emmanuel. Faut rectifier le tir. Donc, au cours du Conseil des ministres qui a eu lieu aujourd'hui, Emmanuel Macron a tenu un discours, pour le coup, un peu plus sévère vis-à-vis des États-Unis, en disant que la France n'approuvait pas du tout ce qu'avait fait Donald Trump. C'est bien. C'est un peu tard. Mais c'est bien. On en est là, quoi. On en est à se réjouir d'un rattrapage, d'un rétropédalage le lendemain au Conseil des ministres, suite à un communiqué de presse à la con. Et encore, il n'a pas condamné. Oui, est-ce que vous condamnez les violences? Est-ce que vous condamnez les violences, monsieur Macron? Donc, c'est bon. Ah, franchement, c'est con, parce que, franchement, Macron, je te le dis, hein, c'est entre nous, hein, c'est complètement entre nous. C'est typiquement dans ces moments-là que tu peux gagner des petits points. C'était pas très difficile. Hein. Alors là, vraiment, on te demandait pas le bout du monde, on te demandait de faire un truc d'européen. Un truc qu'en plus tu sais faire. C'est pas le bout du monde. C'est, voilà, tu condamnes en disant c'est vraiment pas ouf, la France est pas contente, la France est porteuse de valeurs, d'une manière de voir le monde, d'un rapport au dialogue, à la démocratie, etc., qui fait que on fait pas ça. Voilà, tu as juste à dire ça et tu peux gagner des petits points. Bon, bah non, t'as réussi à perdre des points. C'est quand même dommage. Quand même dommage. Bon. Eh bah, c'est pas grave. La France est pas joie. Bah ouais. Bon, après, c'est peut-être de la réelle politique. C'est peut-être de la réelle politique qui fait que Emmanuel Macron n'a pas les moyens de s'emplafonner Donald Trump. Alors qu'on est en pleine négociation sur les mesures de rétorsion américaines dans la guerre commerciale suite à la régulation des plateformes par l'Union européenne. Pas mourir, genre. Mais je sais, mais j'arrête pas de tousser, ça me saoule. J'arrête pas de tousser. C'est à cause des enfants, ça. Arrêtez de faire des bébés. Ah, après ça donne des miasmes. Que peut faire la France concrètement? Concrètement, pas grand-chose. Concrètement, pas grand-chose dans le sens où, merci Sirius and Mars, dans le sens où la France est assez peu présente sur la question vénézuélienne. Sur la question du narcotrafic dans les Caraïbes, la France joue un petit rôle, notamment via les territoires d'outre-mer qui se trouvent là-bas. Mais ce n'est pas déterminant par rapport à la DEA et tout. Ceci étant, la France, d'une part, c'est un des pays leaders de l'Europe. C'est pas rien. Merci, Sly. Et d'autre part, la France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui n'est pas rien non plus. Voilà, ce n'est pas le bout du monde, mais ce n'est pas rien. Donc la France peut faire ce qu'a fait l'Espagne, par exemple, en se proposant de jouer un rôle de médiation. Peut-être que l'Europe pourrait jouer ce rôle-là. Voilà, de se proposer en médiateur, j'en sais rien, pour essayer de trouver une solution à l'amiable, pour discuter, enfin, ouvrir un chapitre de négociation, on peut discuter de beaucoup de choses. Mais là, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il applaudit, en fait. Il applaudit le départ du dictateur Maduro. C'est vraiment le verre à moitié vide et à moitié plein dont on parlait tout à l'heure, quoi. C'est vraiment, est-ce que le simple fait que Maduro soit un dictateur justifie tout ce qui lui est arrivé et toute la méthode et la manière avec laquelle ça s'est passé? Non. En vrai, la plupart des Vénézuéliens expatriés pour des bonnes raisons applaudissent aussi. Évidemment, bien sûr, mais c'est normal. La diaspora vénézuélienne, je vous rappelle que le Venezuela, c'est près de 8 millions d'exilés. C'est phénoménal, notamment en Colombie. Enfin, il y a des gens qui sont barrés dans les pays d'à côté. Évidemment que la diaspora est très heureuse du départ de Maduro. Il faut les comprendre. Merci Gromit35. C'est une excellente nouvelle pour eux que Maduro soit parti. Il faut le voir comme ça. Ceci étant, pardon, mais là aussi, en quoi le départ de Maduro signe la fin du régime de Maduro? Qu'est-ce que c'est que cette personnification de l'ensemble de l'architecture du truc? La preuve, le régime de Maduro va très bien. Enfin, va très bien. Ils ont nommé une nouvelle chef d'État. Voilà, c'était la vice-présidente, conformément à la Constitution. Hop, elle passe de numéro 2 à numéro 1. L'armée reconnaît sa légitimité. Voilà. Donc, je veux dire, est-ce que c'est une telle réussite que ça pour Donald Trump? Je suis très dubitatif. Alors, Trump la menace. Oui, c'est vrai que Trump la menace. Bon, il a aussi menacé les voisins. Il va y avoir des élections. Il y a des élections au Venezuela qui ont été annoncées, t'es sûr? J'ai pas vu passer ça. C'est possible, hein, mais je l'ai pas vu passer. Non, aucune élection prévue. Ok. Pourquoi Macron en parle? Non, ce que dit Macron, et il a sans doute raison, c'est que la suite des opérations, merci Tangent Tigrec, la suite doit être démocratique. Ça, je suis d'accord avec lui. Enfin, oui. Non, mais c'est bon, ça, c'est facile à dire, oui, pour tous les pays du monde d'ailleurs. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Oui, je suis d'accord. Merci, t'as pas tort. Ça sous-entend quand même qu'il s'oppose à la volonté de Trump. Tu trouves? Tu trouves? Je réfléchis, je veux bien te l'accorder, mais la transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. C'est soumis à interprétation, mais je vois pas ça comme un truc très très anti-Trump. Non, je pense que même Trump peut être d'accord avec ça. D'autant que c'est des mots, enfin, je veux dire, c'est oui, dans l'idée. Il y a un article qui sous-entend que la vice-présidente, ou au moins les personnes extrêmement proches de Maduro, étaient dans le coup, car il a été enlevé dans un endroit qui demande un niveau de connaissance de ses proches, et le discours de la vice-présidente est devenu louche. Ah ouais? Merci Renard Jus. Ouais, j'en sais rien, écoute, je sais pas, j'ai aucun élément qui sous-tend ce truc-là, donc on apprendra peut-être ça dans les prochaines semaines. Mais. La vice-présidente qui était en Russie au même moment. Ah ouais? Oui, donc non. Non, non, c'est du renseignement, hein. C'est du renseignement militaire, c'est du renseignement tout court, d'ailleurs, la CIA, sur Nicolas Maduro, où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il se trouvait. Il y a un article du Monde qui le sous-entend. Ok. Bah, j'irai lire ça. J'irai lire ça. C'est intéressant. Pourquoi pas? Je viens de parler avec un ami à Caracas. Pour le moment, les rues sont assez vides. La vice-présidente, avec l'armée et la Cour suprême, ont créé un gouvernement d'intérim. La police vérifie régulièrement les téléphones des gens dans la rue pour savoir ce qu'ils ont dit sur Maduro. Apparemment, ils doivent effacer les informations régulièrement qui sont dessus. Ok. Ouais, méfiez-vous, il y a beaucoup, beaucoup de fausses vidéos qui circulent de Vénézuéliens en liesse dans les rues, anti-Maduro. Visiblement, il y a eu quand même pas mal de debunks qui ont été faits sur ces vidéos. Il y en a beaucoup qui soit datent de l'année dernière ou d'il y a plusieurs années, soit ne sont pas au Venezuela, mais dans d'autres pays d'Amérique latine, notamment là où se réunissent la diaspora, les réfugiés, enfin les exilés. Vénézuéliens qui, eux, évidemment, sont très heureux, c'est normal. Donc, c'est oui, ils peuvent faire des rassemblements et secouer des drapeaux vénézuéliens, mais ça ne veut pas dire que ça a été tourné à Caracas, dans les rues de Caracas, que le peuple vénézuélien est en liesse, etc. Apparemment, de ce que j'ai vu, des journalistes sur place qui disent effectivement les rues sont assez calmes et il n'y a pas encore de grandes effusions de joie suite au départ de Maduro. Le point positif, je trouve, dans ce monde, c'est le rapprochement France-Angleterre. Intervention commune, discours commun, etc. Ah ouais? Parce qu'il y a eu des discours communs qui ont été tenus par Macron avec le Royaume-Uni. Et c'est possible, hein? Bah, le Royaume-Uni et la France sont les deux seuls pays européens à avoir la bombe atomique, d'une part, et d'autre part, ce sont les deux plus grosses puissances militaires européennes. À eux deux. Pour l'Ukraine notamment, le Royaume-Uni, je pense qu'il se méfie aujourd'hui des Ricains. Ok, d'accord. Très bonne chose. Très bonne chose. La France et le Royaume-Uni arrivent à converger sur des questions de défense. Ok, très bien. Bah, très bonne nouvelle. Enfin, oui. Le Royaume-Uni, bof, la Pologne est la deuxième puissance militaire. Alors je crois que la Pologne, c'est en nombre de militaires mobilisables. Mais en termes de puissance de feu, je crois pas que la Pologne arrive à la cheville du Royaume-Uni, je suis pas sûr. Merci Magic. Ça a peut-être changé, remarquez, c'est possible. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact du Brexit sur les questions de défense? Non, parce qu'en réalité, le Brexit n'a pas changé grand-chose aux relations entre le Royaume-Uni et la France et le reste de l'Europe sur les questions de défense. En fait, la défense n'est pas une compétence historique de l'Union européenne, où les questions sont des questions essentiellement de douane et de marché intérieur. Les questions militaires sont des questions séparées. Le Royaume-Uni a un siège au Conseil de sécurité, la France aussi. Donc en fait, le dialogue a toujours été assez fluide avec le Royaume-Uni, malgré le Brexit, sur les questions de défense. Ça ne veut pas dire que tout le monde a toujours été d'accord sur tout, mais le dialogue, je crois, a toujours été fluide. Surtout que t'as pas besoin de la bombe nucléaire pour avoir une bonne force de dissuasion militaire. Exactement. La dissuasion nucléaire, c'est secondaire par rapport à ta capacité, notamment ce qu'on appelle la capacité de projection, dont bénéficient la France et le Royaume-Uni, et assez peu les autres pays européens. Merci, Mister Fécule. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet en lien avec cet enlèvement, ce kidnapping, cette, je sais pas, extradition, c'est quoi les mots qui vont bien? de Nicolas Maduro. Nicolas Maduro. Ouais, le Groenland, on en a parlé tout à l'heure. Merci, Ticlem. On en a parlé tout à l'heure du Groenland. On sait que les États-Unis ont les yeux rivés sur le Groenland. Vous avez... Alors, je rappelle un truc qui est important parce que ça peut passer un petit peu à la trappe de l'attention, c'est que le Groenland est un territoire qui a assez peu d'intérêt, notamment parce qu'il est, recouvert par la glace, une grande partie de son territoire. Donc pendant des décennies, on s'en foutait complètement du Groenland. Ceci étant, depuis plusieurs décennies maintenant, il y a des enjeux de plus en plus forts en matière de diplomatie, en matière militaire, en matière d'extraction des ressources et en matière de changement climatique autour des pôles. Pôle Nord, Pôle Sud deviennent des zones géographiques d'intérêt majeur pour des puissances du monde entier, notamment États-Unis, Canada, Russie, Chine, etc. Et d'un seul coup, le Groenland devient un territoire extrêmement intéressant pour des puissances comme les États-Unis qui s'y intéressent. Les États-Unis adoreraient avoir le Groenland dans leur giron pour des raisons de routes maritimes, pour des raisons d'accès à des matières premières et des ressources minières, et pour des accès simplement de présence militaire, entre autres. Alors, ils ont déjà une présence militaire au Groenland, les États-Unis, dans une zone qui devient une zone de convoitise assez importante. Ouais, les voies navigables aussi. Donc, gardez en tête que tout ce qui est banquise, iceberg, pingouin, ours polaire, ça devient un enjeu stratégique majeur pour des grandes puissances. Merci Jésus Berry. Ça devient important et c'est pour ça que le Groenland attise la curiosité de Donald Trump qui a déjà dit par le passé qu'il avait l'intention d'en faire le 52e état des États-Unis d'Amérique. Problème, c'est que le Groenland est un territoire sous domination des Pays-Bas. Danemark, pardon. Pas les Pays-Bas, le Danemark. Quelle est exactement l'articulation entre le Danemark et le Groenland, je ne sais plus. Je ne sais plus, je le savais avant. En gros, le Danemark a colonisé le Groenland il y a très longtemps, et le Groenland a depuis obtenu une forme d'indépendance, ou en tout cas d'autonomie. Et le Danemark, c'est un territoire d'outre-mer pour eux. C'est un protectorat, c'est quoi ? C'est un protectorat ? Territoire autonome, ouais. Groenland appartient au Danemark, mais le Groenland n'est pas dans l'Union européenne. D'accord, c'est un territoire autonome. C'est une sorte de dom-tom +++, ok. Territoire constitutif du royaume du Danemark. Est-ce que les habitants sont européens ? Alors, c'est une bonne question, ça. Est-ce que les habitants sont européens ? Et est-ce que les pingouins ont le droit de vote ? Non, oubliez la deuxième question, on s'en fout. Oui, les citoyens sont européens. Ok, d'accord. Les citoyens sont européens. Putain, vous imaginez... Non, mais vraiment, je... J'essaye d'imaginer une action militaire américaine au Groenland qui ferait des morts de nationalité européenne. Oh. Contre un pays de l'OTAN. Ouais, le Danemark est membre de l'OTAN. Quel enfer. C'est C'est extrêmement compliqué. Merci. Hayden Panda. C'est extrêmement... Enfin, je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il soit pensable qu'il y ait un conflit militaire ouvert qui opposerait les États-Unis à l'Europe. Ça me paraît fou, compte tenu des siècles d'histoire d'amitié franco-américaine, d'amitié européano-américaine, toutes les histoires de migration qui ont construit les États-Unis d'Amérique en venant d'Europe. Ça me paraît délirant, en fait. Pourquoi ça vous semble plus logique la menace russe que les USA qui sont beaucoup plus plausibles? Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais à l'heure actuelle, les Russes, ils sont en train d'attaquer l'Europe, là. Enfin, physiquement, sur le terrain, c'est en cours. C'est pas hypothétique, la menace russe. C'est maintenant, tout de suite. C'est là. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que dans notre tête, effectivement, c'est un peu plus plausible qu'une menace américaine contre l'Europe qui paraît un peu... voilà. Qui paraît encore difficile à imaginer, quoi. Au demeurant, est-ce que l'Europe est en mesure de faire face militairement aux États-Unis? Je suis pas sûr. Hein. On met la bombe de côté, ok? On met la bombe de côté sur du conflit conventionnel. J'aime beaucoup le Charles de Gaulle, hein. J'aime beaucoup l'avion Rafale, etc. Mais en face... Il y a comme qui dirait beaucoup plus. Après une invasion terrestre, c'est moins simple. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. La marine anglaise est pas mal de son côté aussi. Oui, c'est vrai. Mais putain, la marine américaine, pardon, mais... pardon, mais... La marine des États-Unis d'Amérique. Je crois qu'elle te roule dessus, hein. Enfin, merci, Florence. Ils ont 11 porte-avions, les mecs. Ils ont 11 porte-avions, putain. Nous, on se bat pour en construire un. D'ailleurs, ça a été annoncé, hein, vous l'avez suivi, ça a été annoncé en décembre. La France va se doter d'un nouveau porte-avions nucléaire, machin, qui s'appellera le Aya Nakamura. Ça, c'est moi qui ai décidé. J'ai consulté personne. Les Américains, ils ont 11 porte-avions. Est-ce que les militaires américains aveuglément attaqueraient les Européens? Bah non, c'est ça la question. Moi, je crois pas, mais... Moi, je crois pas... je crois qu'ils attaqueraient le Groenland. Ils prendraient possession militairement du Groenland. Et à mon avis, il n'y aurait pas un coup de feu tiré, ils feraient ça très, très proprement, machin. Mais quelle peut être la réponse de l'Europe face à ça? Comment l'Europe peut se faire chourer comme ça un territoire? Tu peux pas ne rien dire. Alors est-ce que l'Europe tenterait de reprendre le territoire par la force? Pas. Est-ce qu'on a juste les moyens? Bah, c'est la question qu'on posait avant. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on a les moyens? Alors, je ne suis pas analyste militaire, je ne fais pas de renseignement militaire. Je suppose qu'il y a des gens dont c'est le métier qui se gratteront la tête pour dire, bon, on a quoi en face? Et nous, on a quoi? Ouais. Ouais, non. On va envoyer une note au président de la République pour lui expliquer qu'on ne fait pas, on fait pas le poids. On peut leur envoyer notre dette. Je sais pas. Merci, Aritix. L'année dernière, la France avait proposé l'envoi de troupes européennes au Groenland pour envoyer un message aux Ricains. Le Danemark a dit non en espérant que Trump oublie cette idée. Peut-être que maintenant, ils diront oui. C'est intéressant. Si l'Europe envoie des troupes européennes sur place, est-ce que ça dissuaderait Trump de tenter quoi que ce soit? Putain, on en est à réfléchir à comment dissuader Donald Trump d'envahir le Groenland. C'est réel. On en est là. Merci, Kemar. Le Congrès américain ne laissera jamais Trump faire ça. Ouais, malheureusement, Donald Trump a montré tout l'intérêt qu'il accorde au Congrès américain. L'étendue du respect qu'il a pour le Congrès américain. Ça, pareil, excusez-moi, pardon, mais la servilité de cette bande de tocards d'élus républicains américains. C'est là que tu vois la puissance de la secte MAGA, qui tient par les coronesses des élus terrifiés à l'idée de prendre la parole contre Donald Trump. La pression phénoménale de la base MAGA, la capacité qu'a Donald Trump à faire ou défaire, à lui tout seul, des élections, y compris des midterms, etc., fait que les mecs sont d'une servilité, c'est incroyable, quoi. Il laisse tout passer à Donald Trump. Le Congrès américain n'a même pas été mis au courant de l'opération contre le Venezuela. Vous pensez vraiment qu'il va le demander pour le Groenland? Non, mais c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que Donald Trump s'en branle du Congrès américain. Donald Trump s'en branle de la démocratie. Ça lui a jamais plu, la démocratie, à Donald Trump. Il n'aime pas ça. Trump n'aime pas les discussions. Ça a été expliqué par des diplomates, que je trouve très intéressant. Trump déteste les espèces de sommets internationaux dans lesquels il y a des gens en costume-cravate autour d'une grande table et tout le monde prend la parole. Trump, il a horreur de ça. Trump, ce qu'il aime, c'est le one-to-one. C'est le business. Donc, un congrès, un espèce d'hémicycle là où on met des mecs élus et on leur demande de discuter et de voter des trucs, il a horreur de ça. C'est pas sa nature, c'est pas sa culture politique. Il a aucun respect pour la démocratie élective. Il a que du mépris pour ces gens-là. Et donc, il se passe très très bien de la vie du congrès américain. Vraiment, c'est terrifiant. On pourrait un jour parler d'Emmanuel Macron qui n'a jamais été député ni sénateur. Non, mais je compare pas les deux non plus, faut pas déconner, mais bref, y a un truc tendanciel quand même qui m'énerve chez un certain nombre de hauts responsables politiques dans une culture politique particulière. Merci Clark Henry. Trump ne voit même pas l'intérêt de l'exercice démocratique. Ouais. D'ailleurs, on le voit dans les négociations sur l'Ukraine. Trump, ça l'emmerde qu'il y ait des Européens dans la discussion. Ça le fait chier. Trump, il n'a pas envie d'un dialogue à trois entre Poutine, les Européens et lui. Trump, il veut discuter direct avec Poutine. Et les Européens, on est les casse-couilles de l'histoire. Hein. On est là, on fait attendez, attendez, attendez. On a quand même deux, trois points à soulever au cours de cette réunion sur les missiles, sur les ressources, sur le soutien, sur la transition, sur il y a quand même non ouais si 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 on va être chiant mais faut quand même qu'on en parle. Et Trump, il a horreur de ça. Bah ouais. Merci Coïs, merci Clark Henry, merci Super Titou, merci le Popote pour vos resubs, merci beaucoup. Trump déteste même l'idée de l'Union européenne. Ah mais Trump déteste l'Union européenne, évidemment. S'il y a bien un acteur qui a envie que l'Union européenne crève, c'est Donald Trump. C'est tellement plus pratique de discuter en one-to-one avec chacun des pays européens. Les mecs, ils se mettent à 27, ils représentent une puissance énorme, 500 millions de consommateurs, etc. C'est chiant, l'Union européenne, c'est chiant. Quand t'es les États-Unis, c'est chiant, l'Union européenne. T'as pas envie. D'ailleurs, c'est ce que fait Donald Trump avec ses tariffs. C'est qu'il négocie en one-to-one avec chacun des pays européens. Merci Henri André, merci beaucoup. Poutine est dans cette logique aussi. Ah bah évidemment, Poutine est complètement dans la même logique. Poutine déteste l'Union européenne. Quel enfer. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une scission au sein des États américains? J'en sais rien. Alors je ne suis pas un spécialiste de la politique américaine. Je la suis de loin comme beaucoup d'Européens parce que ça me fascine et que ça m'intéresse. J'ai vu qu'il y avait des menaces qui étaient brandies par certains responsables du mouvement MAGA qui consistait à dire on va séparer les États-Unis en deux. Il y aura les Blue States et les Red States. Donc les Red States, les pays de droite et les Blue States, les pays de gauche, démocrates. Et comme ça, il y aura une nouvelle sécession et chacun vivra heureux dans son coin, machin et tout. Je crois pas que tout ça soit très sérieux. Je crois pas que tout ça monte très très haut dans les propositions. Il y a des gens sur Internet qui en parlent. À ce titre-là, c'est tout ce que j'ai vu, quoi. On rappelle aussi que c'est un président avec de la démence qui fait des tests cognitifs tous les 3 mois pour vérifier à quel point il perd la boule. Ouais, t'as raison, Claire. J'ai vu qu'il y avait des médecins qui prennent la parole sur Internet pour dire que selon eux, Donald Trump présente un tableau clinique très très proche de la démence sénile, qui est un truc qui arrive aux gens de son âge. C'est pas grave, mais c'est comme ça, une maladie qui fait que ouais, Donald Trump, il est peut-être bien pas tout à fait en bonne santé. Les diagnostics à distance, c'est pas fiable. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai vu des médecins américains se permettre sur Internet de poser des diagnostics, je me suis dit, hein. Alors, nous, en France, on fait pas trop ça. On essaye d'éviter parce que c'est un peu la base des règles du métier de médecin. On pose pas de diagnostic sur un patient qu'on n'a pas examiné soi-même. On fait pas ça. Ou en tout cas, on fait preuve de précaution langagière. On s'avance pas sur des diagnostics. Bon, je sais pas comment ça marche aux États-Unis, mais en France, on fait pas ça. Voilà. Biden, son gouvernement le cachait. Trump est en roue libre. Ah oui, c'est possible. En France, est-ce qu'on a un moyen légal pour empêcher un président dont l'état de santé ne permet plus l'exercice de sa fonction? La Constitution prévoit le cas où le président de la République est empêché. Alors, on utilise le mot empêché comme un mot juridique pour désigner à peu près n'importe quelle situation dans laquelle le président n'est plus en mesure d'être à sa tâche de président. Et on pense notamment à la maladie. On pense au coma, par exemple. C'est con, hein, mais ça peut arriver. T'es plongé dans le coma parce que t'as eu un accident et là, bah là, les médecins, ils disent, on peut pas du tout vous dire combien de temps ça va durer. Ça peut durer 2 jours comme ça peut durer 7 ans. Voilà, il est dans le coma. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, à ce moment-là, il se passe la même chose. Si un président est empêché, il se passe la même chose que si un président décède. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, je crois, constate la vacance de la présidence de la République, que l'intérim de la présidence est assuré par le président du Sénat, le temps d'organiser de nouvelles élections. Dans un hélicoptère pour New York, ça marche aussi? Oui, bien sûr. Si un jour... Non mais... C'est un scénario un peu fou, mais admettons qu'un jour, genre, un chef d'État se fasse enlever. T'imagines le truc? Non, mais ça arrivera jamais, mais admettons, un jour, des hélicoptères et tout qui arrivent comme ça, et hop, on enlève un chef d'État, et il se retrouve dans un autre pays, je sais pas quoi. Admettons. Dans ce cas-là, je pense qu'on serait dans la situation de l'empêchement prévu par la Constitution, où là, effectivement, le Conseil constitutionnel constaterait que le président est actuellement en prison avec des menottes, il peut plus présider, donc on fait des élections. Maduro n'est pas un chef d'État, même s'il avait le pouvoir. Si, il avait le pouvoir de chef de l'État, même si il n'était pas tout à fait légitime, compte tenu du fait qu'il avait perdu les élections. Pourquoi le président du Sénat et pas de l'Assemblée finalement, d'ailleurs? Pourquoi le président du Sénat? Je pense que c'est pour l'aspect stabilité de la chambre sénatoriale. Voilà, je pense. Trump ne veut pas placer son opposante au pouvoir parce qu'elle a refusé de lui léguer son prix Nobel de la paix, lol. Non, sérieux? Putain, mais je me suis demandé pourquoi Trump avait pas reconnu la légitimité de l'opposante, de la première opposante, donc a reçu le prix Nobel de la paix, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, mais vous allez me le rappeler. Et la raison, c'est ça? La raison, c'est parce qu'elle lui a pas donné son prix Nobel. Machado, ça, elle s'appelle Machado, merci beaucoup. Maria Corina Machado. C'est une info Twitter. Ah! Ah merde. Ah merde. Il a eu le prix Nobel de la paix de la FIFA, c'est encore plus prestigieux. Grave. Grave, grave, grave. Il le dira jamais officiellement que c'est pour ça. Oh, le connaissant, il est capable. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Vous allez vous abonner à la chaîne Twitch de Jean Massier, ça c'est sûr. Mais vous allez le faire parce qu'il va y avoir des streams de grande qualité. Demain, séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Après-demain aussi. À mon avis, ça va être les questions à Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, c'est notre ministre des Affaires étrangères. Il va répondre à beaucoup de questions. Merci, Bomb Tempo. Est-ce que Maduro va avoir un procès équitable? Merci, Naroge. Bah selon les règles du droit américain, oui. Il va, selon les règles, mais bon, il y a quand même le procureur face à lui qui est quand même assez vénère, quoi. Backseat ce jeudi? Non, pas backseat ce jeudi. Quid du camouflet pour Trump s'il se fait libérer Maduro? Ah mais moi c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit en début de ce stream. Imaginez les avocats de Maduro obtiennent sa libération. T'as un Maduro en liberté qui se balade dans New York et qui fait des selfies devant la tour Trump. Ah j'adore, non mais j'adore, voilà. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera. Je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas. Mais c'est rigolo. Maduro qui tape la discute avec le maire de New York, avec Mamdani. Ils vont boire un café, ils vont boire un matcha. Maduro qui fait un bain de foule à New York. Le cauchemar de Trump. Est-ce que le Venezuela va faire une élection? À ce stade-là, ça n'a pas été annoncé par les autorités vénézuéliennes. Donc il n'y a pas d'élection dans l'air pour l'instant au Venezuela, on verra. Est-ce qu'il y a la peine de mort là où il sera jugé? Je ne crois pas. Pas dire de bêtises, mais je crois pas. Est-ce que la justice américaine est disposée à juger des crimes non commis sur son territoire? Oui, dès lors que les victimes se situe sur son territoire, la justice américaine peut se juger compétente. Alors ça, c'est les règles de jurisdiction aux États-Unis d'Amérique. En France, ça s'appelle... Je sais plus, j'ai oublié mes cours de droit. Mais en gros, c'est la question de la compétence. Voilà, c'est ça, c'est la question de la compétence. C'est la question de la compétence des tribunaux. Dans quel cas un tribunal est-il compétent pour juger une affaire, quelle qu'elle soit? Et il y a des règles. Voilà, tout ça pour te dire qu'il y a des règles. Je ne vais pas te les expliquer parce qu'encore une fois, j'ai oublié mes fiches de révision. Mais à une époque, je savais ça. Il y a des règles assez précises pour savoir à quel moment un tribunal peut être compétent ou non pour juger une affaire. Le tribunal où il sera jugé est un tribunal spécial. Ouais, ça m'étonne pas. Ça doit être un tribunal fédéral, non? Je sais pas. Droit international privé, mauvais souvenir de mes études de droit. Ouais, pareil, ça m'a fait chier. À un moment, ça m'a gonflé. C'est pas le principe de territorialité de la loi pénale? C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Et sinon, comment juger Trump pour ses raids pirates sur des bateaux vénézuéliens en eau internationale? Mais c'est une bonne question, parce que ça aussi, ça pose des questions de droit international en l'occurrence. Le fait que des bateaux militaires américains, au mépris de toutes les règles d'engagement du feu, décide de tirer sur des bateaux et de tuer leurs occupants. C'est une question qui doit faire l'objet, qui devrait faire l'objet d'un procès normalement dans un monde normal. En fait, t'as pas le droit de faire ça. On bute pas des gens comme ça. Il y a des règles. Pour faire une deuxième passe sur les survivants, ce qui constitue un crime de guerre. Par ailleurs, oui, c'est caractéristique d'un crime de guerre. Est-ce que tu as parlé de la Colombie? Je n'ai pas particulièrement parlé de la Colombie, non. Je ne sais pas très bien quoi en dire, si ce n'est que la Colombie accueille beaucoup de Vénézuéliens réfugiés. Trump a aussi menacé la Colombie. Ouais. La déclat de Trump disant que son président a chaud au cul. Putain. Ça, j'avais entendu effectivement, ouais, vous avez raison, que Donald Trump avait menacé à mots, à demi-couvert, un certain nombre de pays, en gros, en leur disant il va vous arriver la même chose qu'au Venezuela si vous ne faites pas gaffe. Il a parlé du coup de la Colombie, du Mexique, de Cuba. Panama, peut-être. Groenland. Je trouve ça fou que France Info parle des bombardements à Caracas comme une opération propre à zéro mort. Alors que plusieurs dizaines de morts civiles ont été confirmées seulement quelques heures après les frappes. Vérifie le timing exact de cette publication de la part de France Info et vérifie que ce n'est pas une citation. Zéro mort américain a priori. Ouais. Oui, ça on le savait dans les heures qui ont suivi l'opération militaire, qu'elle n'avait fait aucun mort du côté américain. Et moi j'ai toujours entendu une précision que c'était du côté américain dont qu'on parlait. Et on n'avait d'ailleurs pas plus d'informations sur le côté vénézuélien, si je puis dire. Est-ce que ça existe encore les envoyés spéciaux en journalisme? Bien sûr. Les envoyés spéciaux, les correspondants? Ça existe toujours. Un correspondant en journalisme, c'est un journaliste qui se trouve dans un pays donné, qui travaille à distance pour le journal, et qui lui fournit des informations, des articles, qui fait un travail de reporter sur le terrain, qui va enquêter, qui va machin, etc. Le principe du correspondant, c'est qu'il vous donne une information qui vient du terrain, qui vient de quelqu'un qui l'a constaté, qui l'a vérifié, qui l'a recoupé. Et qui permet donc au journal de pouvoir s'appuyer sur une source locale de confiance qui lui donne des informations. Le deuxième principe du correspondant, c'est que quoi qu'il dise, il va se faire contredire par des gens sur Twitter qui n'habitent pas sur le terrain, qui ne sont pas sur, qui n'ont pas, voilà, qui sont pas là. C'est la règle, c'est comme ça marche comme ça. Un correspondant, il te dit, ici, la situation est calme. Il y a un mec sur Twitter qui va dire c'est faux. C'est faux, c'est le bordel. Voilà. C'est le principe du journaliste. Mais vous vous souvenez de cette séquence? Non, mais là, je rigole, mais en fait, je rigole qu'à moitié, hein, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Vous vous souvenez de cette séquence qui était folle sur un plateau télé? Je crois que c'était LCI ou BFM. C'est peut-être BFM. Où. Il y avait sur un plateau de BFM, il y avait des débatteurs de plateau comme ça qui s'engueulaient sur la question des migrants en Méditerranée. notamment à Lampedusa, où les bateaux arrivaient. Et il y avait une des femmes, une des polémistes du plateau, qui disait: ce sont des bateaux qui sont remplis d'hommes, il n'y a pas de femmes et d'enfants, ce ne sont que des hommes qui ne sont pas du tout des réfugiés, ce sont des islamistes qui viennent nous égorger. Et la journaliste qui animait ce plateau, à un moment, elle a dit: vous ne bougez pas, vous restez avec nous, tout de suite nous allons retrouver notre envoyé spécial sur place à Lampedusa. Et là, tu as un journaliste de BFM avec son petit micro BFM à Lampedusa, avec une caméra, comme ça tu vois les bateaux derrière lui, et qui fait son reporting. Et qui dit: voilà, ici à Lampedusa, la situation est tout à fait sous contrôle. J'ai effectivement pu constater ce matin l'arrivée de très nombreux bateaux au sein desquels se trouvaient des femmes, des enfants et des hommes en grand nombre qui sont dans une situation terrible, très difficile du point de vue humanitaire. Une action est menée par les gardes-côtes, etc., etc. La journaliste qui lui dit: attendez, vous nous confirmez bien que dans les bateaux, il y avait des femmes, des enfants et des hommes? Et l'envoyé spécial qui fait: ah oui, je vous confirme tout à fait avoir bel et bien constaté qu'il y avait des femmes, des enfants et des hommes. Et là, la polémiste qui est en plateau, elle dit: c'est faux. Et vraiment, l'envoyé spécial qui est en duplex, qui est en mode: ah non, c'est pas faux. Enfin, je suis là, j'ai vu, enfin, c'est mon métier. Et elle dit: non, vous racontez n'importe quoi, c'est pas vrai. Il y a que des hommes dans les bateaux. Et cette séquence, elle est magique, en fait. Elle dit tout ce que tu as besoin de comprendre, en fait. Tu as beau envoyer un mec sur place pour constater, un journaliste dont c'est le métier pour aller checker l'info, tu auras quelqu'un en plateau à Paris qui va te dire: ce que tu dis est faux. Ça ne correspond pas, ça ne colle pas avec mon narratif. J'ai donc raison. Tu as donc tort. Tu travailles pour quelqu'un. Je sais pas, tu obéis à quelqu'un, je sais pas qui, machin et tout. Voilà. Mais du coup, qui croire? C'est vrai, ça. Qui croire entre le journaliste sur place et Elisabeth Lévy? Bah, c'est une bonne question, dis donc. C'est comme Retailleau qui contredit les études sur la délinquance. Oui, avec le ressenti. Oui. Oui, bien sûr. C'est un classique. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire: courage à toi, journaliste envoyé spécial, journaliste correspondant. Merci pour ton travail. Continue à nous filer des infos, continue à les checker, les vérifier, etc. On a besoin plus de toi que des polémistes. Et désolé par avance pour tous les connards qui vont venir te dire sur Twitter que tu as tort, que ce que tu racontes est faux, parce que eux, ils ont raison. Ils l'ont lu quelque part sur Internet. Ça doit être déprimant, sa mère, de faire ce métier. Ça doit être giga déprimant. Mais putain. Croyez-en, mon doigt mouillé. C'est la vie des soignants. Oh! J'aimerais pas être soignant. Pareil pour la même raison, effectivement. J'ai lu sur Internet que... N'allez pas au bout de votre phrase. Je suis médecin. J'ai regardé votre dossier. Je vous ai ausculté. Voilà ce que je vous dis. Maintenant, tu as les fausses images et les vidéos faites par IA qui posent la question de la confiance et de la preuve. Ouais, non, mais complètement. Mais c'est d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est d'autant plus maintenant qu'on a l'intelligence artificielle qui fait des fakes excellents qu'on a besoin d'envoyés spéciaux sur place. C'est encore plus important. La rédaction d'un journal, elle a besoin qu'on lui envoie des infos fiables. C'est son correspondant qui lui dit: tiens, j'ai filmé avec mon téléphone ces images, je te les envoie. Ce sont mes images. Voilà, c'est sûr, ça vient du terrain. J'ai filmé ce matin et tout. Je suis d'accord, mais le temps d'envoyer un envoyé spécial sur place, le fake aura déjà été diffusé massivement. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais bien sûr, les dégâts vont être faits, je suis d'accord avec toi. Mais c'est, en fait, c'est fou, mais j'ai l'impression que plus je vieillis et plus, enfin, plus j'avance dans ce monde de tarés dans lequel les fakes sont de grande qualité, les fake news, les distorsions. Réalisé par des distorsions de récits et de narratifs réalisés par des États étrangers, notamment dans le cadre des élections, etc. Plus j'avance dans ce monde-là, plus je fais confiance aux journalistes, en fait. Parce que justement, j'ai besoin d'eux. Je suis en mode, les gars, enfin, si je me fie à Twitter, je comprends plus rien. Heureusement que vous êtes là. Et donc, j'ai besoin du Monde, j'ai besoin du Figaro, j'ai besoin de Libération, j'ai besoin de Mediapart. Parce que eux, en fait, j'ai confiance dans leur méthodologie. De travail de l'information et je sais quand ils écrivent c'est qu'ils l'ont checké, ils l'ont vérifié, enfin c'est pas comme un tweet quoi. Donc ça fait du bien d'avoir des journalistes dans les périodes qu'on vit comme aujourd'hui quoi. Même le Figaro? Bah évidemment le Figaro pourquoi? Mon toubib à l'hosto a fini par admettre qu'il avait une erreur de posologie, bien content de ne pas avoir cru sur parole et d'avoir d'être allé voir sur Vidal. Ah ouais, c'est bien d'avoir un deuxième avis. Parce que le Figaro est devenu pitoyable, c'est plus que de l'opinion. Bah, arrête de lire les pages opinion du Figaro, peut-être. Enfin, je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais lis leur reportage, ça peut aider. Les journalistes font en profiter maintenant, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Oh si, il y en aura toujours. Ce qui est vraiment désespérant, c'est de voir que ce climat de fake news et de bataille idéologique, plus IA, mène à une situation où on ne sait plus se mettre d'accord sur les faits, voire savoir ce qui est réellement un fait. Ouais, c'est vrai. Le problème du journalisme déontologique, c'est pas tant les faux que les omissions. Il y a un truc intéressant, c'était un professeur de journaliste qui avait noté que en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, notre exigence vis-à-vis des journalistes est infiniment plus haute que vis-à-vis des gens auprès de qui on s'informe. Qu'un journaliste commette une erreur dans un article va nous paraître absolument intolérable. Qu'un tweetos anonyme raconte n'importe quoi, ça va à peine nous faire soulever un sourcil. On n'en a rien à foutre. Et c'est plutôt bien. En fait, c'est la preuve qu'on a confiance dans le journaliste. Et que quand cette confiance est déçue, on n'est pas content. Et c'est normal. Et on est déçu, on est triste, etc. Mais surtout, il y a une confiance qui a été rompue. Merci, Géographor. Mais par contre, les randoms de Twitter peuvent raconter mais n'importe quoi. On leur en veut pas. C'est pas grave. Merci, Miss Lunuit. Merci Sadomea Craft. Si le tweetos touche plus de monde que le journaliste, la fausse info est déjà là. Oui, et on n'en voudra pas au tweetos pour ça. Vraiment, t'as une immunité, t'as un totem d'immunité, c'est assez spectaculaire. Tu peux mentir, tu peux déformer, tu machin, c'est Internet, c'est pas très grave. Alors qu'un journaliste, putain, s'il fait la moindre boulette, c'est le dernier des salauds. Donc, continuez à être exigeant avec les journalistes. C'est important. Continuez à être exigeant avec les journalistes. Merci Grantoine. Les dictatures et narcotrafiquants de gauche commencent à tomber. Ben non. J'ai l'impression que tu t'en réjouis, tant mieux pour toi, mais le régime de Maduro au Venezuela n'est pas tombé. Voilà. Ils sont toujours là. Maduro a été enlevé, ça c'est vrai, mais jusqu'à présent, visiblement. On pourrait débattre de la possibilité d'être dictateur et de gauche aussi. Il y en a eu deux, trois. Allez. Reconnaissons qu'il y en a eu. Ça a pu arriver. Voilà, non, mais après, c'est pas grave. Mais voilà, non, si, quand même. Merci, Samaël. Bah non, car être de gauche, c'est être quelqu'un de bien, et être dictateur, c'est pas bien. Du coup, c'est incompatible. Eh oui, eh oui. Tu peux pas. Bah non. Forcément non. C'est, ouais. C'est mathématique. Merci camarade Furet. Merci. Cet éternel débat de comment on définit la gauche et la droite. Bon, la gauche c'est bien, la droite c'est pas bien. Ça te va comme définition ? Non, mais définissez-les comme vous voulez, c'est pas grave. Il y a des dictatures avec des politiques très sociales, juste pas de liberté de la presse et pas d'opposition. Un dictateur qui construit des logements, est-ce que c'est vraiment un dictateur? Regarde la Corée du Nord, tout le monde est content, non? Ah ouais. Aux dernières élections, d'ailleurs. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ils n'ont pas repris les cours des collégiens normalement. Bah non, pas encore. Si, je sais pas, on est quel jour. Mais non, non, on est oui, si, on est lundi. Merci, Blavi Keken. Non, il neige. Comment ça se passe la neige chez vous? Attendez, je vais regarder par la fenêtre. Waouh, c'est ouf! Il y a plein de neige. Il y en a plein, il y en a sur les voitures, sur le parterre, sur les poubelles et tout. C'est trop beau, c'est très ouli. C'est très très ouli. Merci, Aloha of Doom. Ne mangez pas la neige jaune. Ah non, c'est la règle, on mange pas la neige jaune. Twitter dit que c'est faux. Twitter dit qu'il ne neige pas. Les copains, les copains, les copines, comment vous dire? C'est un plaisir de vous retrouver en cette rentrée. Bonne année, hein, encore une fois, bonne année. N'hésitez pas à aller voir le début du stream pour savoir quels sont les cadeaux que vous avez obtenus quand vous, pendant Noël. Tac, 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 tac. On se retrouve demain à 14h pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Et voilà, on va parler de Maduro, de la dictature insoumise de Maduro. Et on va parler des bienfaits de l'action du président Trump. Non, ça va être chouette. On va parler du Groenland aussi, j'espère. Il n'y a pas backseat jeudi. Non, 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 il n'y a pas backseat jeudi. On n'a pas encore fait notre entrée. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve demain. Merci les copains d'avoir été là. Bisous bisous, ciao ciao.